Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Marie-Pierre Ixin, merci beaucoup d'être présente dans mon podcast. Je suis ravie, c'est la deuxième fois que vous intervenez dans Réel. Donc je suis vraiment honorée. Je vous suis. J'ai envie de dire presque religieusement. En tout cas, depuis qu'on s'est rencontrés, je suis vos actions en tant que députée, en tant que femme. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et je suis vraiment honorée que vous soyez là. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Marie-Pierre, est-ce que c'est possible de vous présenter ?
Merci Estelle pour cette deuxième invitation. Moi, je suis également très admirative du podcast. Comme ça, nous sommes dans une mutualité d'intérêts. Et merci pour toute la mise en lumière de ces parcours si intéressants sur le podcast. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Rixin, j'ai 46 ans. Je suis députée de l'Essonne, de la 4e circonscription. C'est mon deuxième mandat, j'ai été réélue l'année dernière. Et j'œuvre plus particulièrement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le cœur de mon travail aujourd'hui est de m'assurer que les femmes bénéficient des mêmes droits économiques que les hommes. Et je suis par ailleurs maman de deux garçons.
Donc Marie-Pierre, depuis le début de votre carrière, je vais commencer en fait... en entonnoir inversé, c'est-à-dire que j'ai envie de vous donner, vous poser une question en premier lieu qui est assez générique pour qu'on essaye, de mettre un pas de côté. Depuis le début de votre carrière politique, donc selon vous, quelles grandes étapes notables ont été franchies par les femmes en faveur de l'égalité homme-femme et quelles sont selon vous les prochaines dans les 10 ans à venir qui sont incontournables? Je sais que la question est quand même très générique, donc je veux pas qu'on rentre dans des choses trop génériques, mais je vous fais confiance. Mais voilà, moi ça m'intéresse aussi d'avoir votre point de vue de femme engagée depuis plusieurs années maintenant, comme un point d'étape entre deux rives, voilà.
Alors depuis que j'ai été élue, et cela ne relève pas seulement, et bien donc, enfin, pas seulement de mon action, et j'irais même évidemment c'est une action beaucoup plus large et une prise de conscience probablement sociétale qui accompagne le politique. Il y a eu, je crois, d'abord une prise de conscience au niveau du corps des femmes. C'est assez nouveau. Il y a une réflexion aujourd'hui sur l'accompagnement, par exemple, de l'endométriose, des menstruations, le fait que l'on en parle également dans les établissements scolaires. La question, évidemment, de la contraception, des droits sexuels et reproductifs de manière plus générale. Également de ce que l'on appelle parfois les violences obstétricales. Tout ce qui relève de la santé des femmes et qui, je crois, jusqu'à présent, était plutôt considéré comme de l'ordinaire, à savoir de la douleur qui devait être acceptée et intégrée par les femmes, qui aujourd'hui est mise à l'agenda politique et auquel on essaie d'apporter des solutions. Le deuxième point, je dirais qu'il y a également eu une réflexion autour de la place des hommes dans l'éducation des enfants et le partage des charges parentales et familiales. Et l'une des réformes phares, qui me semble absolument déterminante et que probablement il va falloir évidemment encore améliorer et peut-être rendre davantage obligatoire, c'est celle évidemment du congé de paternité.
On va y revenir, ouais, plus
qui est essentiel et qui permet aux hommes de trouver leur place également lors de la naissance des enfants et donc de trouver également leur place dans l'éducation des enfants.
Bien sûr.
Et puis l'autre point, je crois aussi, c'est les réflexions autour de l'égalité économique et professionnelle. On a eu d'abord, pour commencer, l'index de l'égalité professionnelle porté par Muriel Pénicaud, qui, je crois, est essentiel parce que tout le monde connaît aujourd'hui ces notes qui sont publiées régulièrement au 1er mars et que les entreprises maintenant mettent même en avant pour montrer également leurs engagements en matière de droits des femmes et qui permettent de mesurer, non pas uniquement d'être dans les grandes incantations. Il y a eu également le texte que j'ai pu porter sur les droits économiques, les droits bancaires et la place des femmes dans les instances de direction. Et je m'en réjouis. Je crois que ça a ouvert également une réflexion sur le rapport des femmes à l'argent. Et de manière générale, on a également, je pense par exemple à Sista, que vous avez également mis en lumière ici sur le podcast, qui a mis en avant le fait que les femmes bénéficiaient de moins de financement que les hommes, et donc avec une réflexion aussi accompagnée par la puissance publique.
Mais ça, c'était il y a un an. Ça faisait partie aussi du financement des femmes entrepreneuses. Vous l'aviez soulevé dans le cadre d'un projet de loi qui, de mémoire, date du 24 décembre 2021, voilà, je crois.
Qui a été adopté.
Donc c'était une loi qui visait à augmenter la participation des femmes au marché du travail, à mieux partager le pouvoir économique au sein des entreprises et donc à améliorer l'accès au financement. Ça fait qu'un an, mais ça fait déjà un an. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? C'est trop jeune là pour en parler ? Il n'y a pas assez de recul encore ? On ne sait pas. Il y a eu des avancées notables selon vous ?
On a des résultats. On a des résultats d'abord parce que il y a un certain nombre d'obligations qui maintenant sont actées. Par exemple, sur le fameux compte bancaire, le fait que les salaires doivent être versés sur un compte bancaire, c'est maintenant effectif. Le fait que les femmes. Alors sur l'entrepreneuriat et l'accès au financement, les chiffres ne sont pas très bons. Il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus poussée encore sur le sujet.
Le problème, c'est que ça vient en même temps d'une crise aussi de financement global qui concerne un peu tout le monde.
Exactement. Donc, il faut qu'on regarde aussi pour que les femmes n'en pâtissent pas. Et puis, en revanche, sur la féminisation des instances de direction, là, on a déjà des résultats notables, puisqu'on a à peu près plus de 50% des entreprises qui ont commencé à acter et à mesurer leurs effectifs, la répartition. On a eu des nominations aussi de femmes à la tête d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, et donc une attention aussi de la part probablement des actionnaires, mais également des entreprises de manière plus générale sur la féminisation de leurs instances de direction.
Parce que du coup, juste un petit exemple, on ne va pas revenir dans les détails de la loi, mais est-ce que vous auriez deux exemples assez saillants en termes de l'égalité ? Est-ce qu'il y a eu des contraintes ? Est-ce qu'il y a eu des obligations qui ont été imposées à des entreprises ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de très particulier ?
La loi impose, depuis le 1er mars 2022 et depuis le 1er mars 2023, que les entreprises publient sur leur site de communication, leurs outils de communication et sur un site dédié du ministère du Travail, la répartition femmes-hommes parmi les instances, dans les instances de direction. Et donc, de fait, cette publication et cette publicité autour, mise en avant en plus juste avant le 8 mars, de cette répartition entre femmes-hommes, a poussé les entreprises à mesurer, à agir. Et donc, on voit aujourd'hui des entreprises, d'abord, qui ont...
C'est pour les entreprises
de plus de 1000 salariés.
Ouais, c'est ça.
Et on voit que on a des entreprises, par exemple, entre guillemets, dans des domaines à dominante masculine. Alors, je prends l'exemple de Bouygues, par exemple. Je trouve que c'est intéressant parce que la promotion se fait vraiment en interne, où il y a eu des process qui ont été mis en place pour faire en sorte que, justement, in fine, on puisse avoir une féminisation des instances de direction. On a des entreprises. Hier, j'ai remetté un prix à l'entreprise Legrand, qui, de la même manière, a à la fois mis le sujet à l'agenda politique, en a fait un axe stratégique et en fait un axe également fort en matière de recrutement, sachant que sur un certain nombre de secteurs d'activité, nous sommes en tension, les entreprises ont besoin de recruter et que d'ailleurs, filles comme garçons, femmes comme hommes, regardent cet élément-là comme étant non seulement un objectif chiffré, mais comme étant un révélateur de ce qui se passe aussi dans l'entreprise.
Il y a une sanction.
Donc, c'est un signal qui est donné à la société.
Ouais. Il y a une sanction si l'entreprise ne le fait pas. Enfin,
il y a une sanction qui tombera pas tout de suite, puisque l'idée, c'était de ne pas sanctionner les entreprises, mais de les accompagner. Donc, il y a une obligation pour qu'en 2026, elles aient 30% de femmes et en 2029, 40% de femmes parmi leurs instances de direction. C'est inédit dans le monde. C'est la première fois qu'une loi de ce type-là est passé dans le monde. Et il y aura en effet une amende pour les entreprises qui se ne mettraient pas en conformité, qui pourrait potentiellement tomber en 2031. D'accord. Donc la loi laisse 10 ans aux entreprises pour atteindre des objectifs. Donc pour certaines, c'est déjà accompli et elles sont même parfois même au-delà de ce que la loi exige. Et pour certaines qui sont très en retard, évidemment, les choses ne vont pas se faire d'un claquement de doigts puisque c'est mettre en échec le plafond de verre et faire en sorte qu'il y ait cette mobilisation en interne. Ça veut dire des changements de code. Enfin, c'est toute une culture de l'entreprise qu'il faut faire évoluer.
Donc en mars dernier, j'ai eu la chance de participer à la deuxième édition des rencontres de l'égalité économique et professionnelle organisées par vos soins au sein de l'Assemblée nationale. Alors on a abordé plein de thématiques, c'était passionnant. J'ai adoré ce moment. J'ai rencontré des gens que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas et c'était vraiment un super moment. On a abordé donc l'autonomie économique comme levier de performance, donc avec l'exemple de la Suède notamment. Donc moi, avec mon appétence pour enfin, j'ai envie de dire presque mon amour pour les pays nordiques, ça m'a vraiment évoqué plein de choses. On a parlé de l'impôt des femmes, mais ça j'y reviendrai dans une autre question. La nécessité de féminiser l'agriculture, la construction et la tech. Donc ces trois domaines qui vraisemblablement aujourd'hui sont quand même très masculins ou masculinisés, je sais pas comment on dit ça. Est-ce que ça vous embêterait de retracer avec moi les grandes lignes de ce qu'on s'est dit pendant ces échanges? C'est-à-dire que là, comme ça, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, organisatrice, au contact de tous ces intervenants? Il y avait des gens passionnants. Qu'est-ce que vous auriez envie de, en digest, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur ces moments, sur ce moment d'échange?
Alors, sur ce, il y avait effectivement deux tables rondes, oui. Une sur les enjeux fiscaux sur lesquels donc nous reviendrons, et sur les enjeux propres à la nécessité de féminiser un certain nombre de secteurs. Et en effet, j'avais pris trois exemples qui illustrent, je crois, la problématique. C'est de se dire que pour chacun de ces secteurs, la tech, l'agriculture, la construction, on court vers un certain nombre de risques conséquents qui seront dommageables, pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de la société, si ces secteurs-là ne sont pas plus inclusifs et notamment ouverts à la participation des femmes à ces secteurs d'activité. Je prends l'exemple de l'agriculture. L'agriculture, c'est d'abord assurer notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, pour des raisons structurelles, il y a de moins en moins de reprises d'exploitation familiale. Et donc, ce sont ce que l'on appelle, dans le jargon, des nouveaux entrants qui reprennent ou qui créent des exploitations agricoles. Il en faudrait 20 000 pour assurer la souveraineté alimentaire. Nous en avons 14 000 chaque année en France. C'est déjà beaucoup, c'est considérable par rapport à d'autres pays. Donc il en manque 6 000. Et ce dont on parlait notamment avec Audrey Bourolo, c'est la manière dont les femmes, la présence des femmes, peuvent être également une ressource pour l'agriculture. Elles sont insuffisamment nombreuses aujourd'hui, très insuffisamment nombreuses. Traditionnellement, la femme en agriculture, c'était une conjointe collaboratrice qui était là pour accompagner l'agriculteur. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes qui sont formées, volontaires, des chefs d'entreprise, et donc ce sont des entrepreneurs. Et donc c'est un changement de culture à la fois sur ce secteur d'activité, une manière de considérer le métier qui doit évoluer et qui va servir la féminisation. Ou alors on peut se dire que la féminisation va accompagner également une nouvelle acculturation de l'agriculture qui va bénéficier évidemment à l'ensemble de la population agricole et qui servira en effet ensuite nos propres intérêts économiques, à savoir notre souveraineté agricole. Et ça vaut pour la tech, ça vaut pour la construction. Ce sont des secteurs où il y a des codes qui sont particulièrement prégnants, parce que ce sont des secteurs d'activité où traditionnellement, en effet,
historiquement,
ce sont des hommes qui occupent les postes. Et on voit avec l'exemple en effet de la Suède, ça reboucle le sujet, que la Suède dans les années 70 avait des problèmes démographiques, probablement auxquels nous allons être confrontés dans les années à venir. Donc je trouve intéressant de regarder comment certains pays ont été confrontés à cette problématique.
Une baisse de la démographie, vous voulez dire?
Une baisse de la démographie, notable. Et même si on a une démographie qui tient un peu la route, on est à 1,7, ce qui est... On a vraiment une baisse de la natalité. Et l'une, notamment, des solutions qu'a trouvé la Suède pour pouvoir répondre à ces enjeux démographiques, ça a été d'intégrer massivement les femmes sur le marché du travail et notamment sur des secteurs qui étaient jusque-là à dominante masculine. Mmh. Et en cassant les codes, eh bien, ça a servi l'ensemble de la société. On voit aujourd'hui quelle est la place de l'enfant, notamment dans la société en Suède. On voit également les rapports entre les femmes et les hommes qui se sont pacifiés. On voit également les bénéfices que les hommes ont pu en tirer, puisqu'on rappelle notamment la vertu du congé paternité dans les pays du Nord. Donc, on voit à quel point également ça pacifie l'ensemble d'une société, même si je ne suis pas angélique et il y a évidemment également malheureusement des violences conjugales, bien sûr, dans les pays du Nord. Il n'empêche que cette égalité-là structurelle entre les femmes et les hommes a servi l'ensemble de la société, au-delà même des intérêts, j'ai envie de dire, proprement féministes bien que sûr. Défendaient les associations.
Bien sûr. Même sujet pour la tech, bien évidemment, qui d'ailleurs est un sujet en lui-même. Je reviens sur la partie fiscalité, du coup. Donc, c'était en juin dernier, en juin 2022, au moment où vous avez été réélu députée pour un second mandat, vous avez déposé une nouvelle proposition de loi qui vise à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes. Quelles sont les grandes inégalités qui demeurent et contre lesquelles vous visez à lutter dans le cadre de cette loi? C'est-à-dire, pourquoi vous avez voulu porter cette loi?
Je dirais que tout ça, c'est un même puzzle. Mmh. Les enjeux professionnels, les inégalités professionnelles, les inégalités d'accès parfois à certains marchés de l'emploi et les enjeux fiscaux, tout ça, finalement, ça relève d'une même problématique qui sont la question des droits économiques des femmes.
Bien sûr.
Et le chiffre que l'on connaît tous, ce sont les 22% d'inégalités économiques entre les femmes et les hommes qui s'expliquent notamment par 3 ou 4 leviers que je répète rapidement ici. Mmh. Le fait que les femmes travaillent dans des secteurs d'activité qui sont moins rémunérateurs, le fait qu'elles accèdent à des postes qui sont moins importants en termes de responsabilité, le fait qu'elles acceptent moins au financement notamment. Tout cela est un enchevêtrement de causes qui aboutit à ce chiffre-là. Or, ce chiffre-là, il a des conséquences nombreuses. D'abord, ça aboutit parfois à un appauvrissement, et je pense notamment aux familles monoparentales. Mmh. Ça aboutit également au fait que les femmes investissent moins dans l'économie réelle. Le fait également qu'elles sont parfois moins autonomes, donc notamment dans le cas des violences, c'est un problème. Et puis d'autre part, les femmes sont également des consommatrices qui ont des besoins propres et qui sont donc... c'est une perte de valeur également pour les entreprises. Donc, la question des inégalités économiques entre les femmes et les hommes, en 2023, n'est plus acceptable. Elle est non seulement d'un point de vue éthique, évidemment tout le monde le comprend, mais par ailleurs d'un point de vue économique, j'ai envie de dire c'est presque une aberration, une folie que d'imaginer que 52% de la population en France a 22% de moins de revenus qu'elle devrait en avoir. Or, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder dans le détail d'où viennent les raisons. Donc, on a évoqué les enjeux professionnels, les enjeux notamment d'accès au financement, et il y a également des raisons fiscales. Aujourd'hui, en France, l'impôt sur le revenu est calculé à l'échelle d'un couple et non pas à l'échelle d'un individu, contrairement à d'autres systèmes fiscaux en Europe où cela est calculé à l'échelle d'un individu. Non seulement le calcul de l'impôt est calculé à l'échelle du couple, mais en plus le taux de prélèvement est calculé à l'échelle d'un couple.
Donc prenons c'est fou hein, quand on y pense.
Et donc c'est assez fou. Mmh. Ça signifie que notamment, donc dans 78% des cas, ce sont des hommes qui gagnent plus que leur conjointe. Mmh. Et à partir du moment où le taux, ce qui est possible, peut être, c'est une option aujourd'hui, peut être individualisé, ne l'est pas, eh bien ça signifie que les femmes, qui par exemple peuvent gagner 30, 50, 60% de moins que leur conjoint, vont être prélevés du même taux sur leur feuille de salaire, alors que parfois, elles ne devraient pas être imposées. Ouais. Et donc, c'est de l'argent, réel, oui, qui tous les mois est substitué aux femmes.
De manière complètement indue.
De manière presque indue, de manière totalement injuste. Et alors, ça a plusieurs conséquences. Le fait que, d'abord, évidemment, elles sont moins autonomes financièrement. Donc ça, c'est un sujet parce qu'on sait que l'argent, c'est une source de pouvoir, évidemment, à l'échelle d'un couple. Quand vous êtes dans un couple, entre guillemets, démocratique, eh bien, tout se passe bien. Mais quand on tend vers la dictature ou vers le régime autoritaire, ça devient un problème. Et donc, c'est éminemment important. Et puis, d'autre part, ce sont des ressources en moins que les femmes investissent.
Bien sûr.
Et qui sont substantielles à l'échelle d'un revenu, par exemple, de 2000 euros par mois, alors que ce sera peut-être plus indolore d'avoir une perte équivalente sur un revenu
Bien
de
sûr.
6 ou de 8 000 euros.
Bien sûr.
Donc, c'est évidemment important et cela participe à ces inégalités économiques. Mmh. Et le deuxième point, c'est comment peut-on imaginer que les femmes soient des actrices économiques à part entière, c'est-à-dire qu'on les finance de la même manière que les hommes, qu'on leur permette
si
d'avoir le même poste,
elles sont attachées au même foyer.
Si elles ne sont pas autonomes sur le plan fiscal, si elles ne sont pas des sujets fiscaux
indépendants.
Autonomes et indépendants. Et enfin, le troisième point, on sait aussi que l'individualisation de l'impôt incite les femmes, évidemment, financièrement, à travailler davantage, à intégrer le marché du travail. Et donc, ça permet également, j'en parlais tout à l'heure, de résoudre parfois, sur certains secteurs, des problématiques de marché du travail en tension. Et aujourd'hui, on a besoin on a un problème de marché de l'emploi, donc c'est éminemment important que les femmes intègrent le marché du travail.
Et au niveau successoral, je me souviens plus trop de ce qu'on a dit. J'ai un petit trou de mémoire. Je sais qu'il y avait quelque chose qui m'avait...
Ouais, on l'a moins évoqué. Nous l'avons moins évoqué. Le sujet successoral, il est vaste. Il se trouve qu'il y a deux économistes qui ont écrit un livre pour rendre à César ce qui lui appartient, qui s'appelle « Le genre du capital
».
Et qui mettent elles-mêmes en exergue tous ces enjeux fiscaux et successoraux.
C'est ça.
Et il se trouve que dans le Code civil, aujourd'hui encore en France, donc je parlais des archaïsmes, c'en est une illustration, on peut encore parler du seul père et fils, enfin des seuls pères et fils. Et il se trouve que au moment de la Révolution française, lorsqu'on a revu le système successoral, il y avait une transmission égale en valeur et en biens. Mmh. Et à partir du Code Napoléon, on est revenu uniquement à une transmission en valeur, ce qui fait que notamment il y a des gaps de transmission de patrimoine qui se passent notamment dans des fratries où il y a des filles et des garçons. Les garçons généralement héritant du patrimoine et les filles étant presque indemnisées
en valeur
non en nature. Et donc je souhaiterais qu'on revienne à cet aspect-là qui me semble être une réalité, puis surtout supprimer ce passif patriarcal du Code civil.
Merci de me le rappeler. Donc dans la suite, donc on revient là pour le coup à un sujet qui me tient très à cœur, dans la suite de votre travail qui était déjà initié en 2018 au sujet du congé de maternité, vous êtes à l'origine d'une proposition de loi déposée le 14 juin dernier, donc là très récemment, visant à rendre effectif le droit au congé maternité et paternité pour toutes. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus, parce que c'est un sujet qui me en tant que jeune maman, ça me concerne et j'ai pu voir de quoi on parlait. En quoi il n'est pas effectif ce congé maternité tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec notamment l'essor du congé paternité, puisque c'est aussi récent, mais ça existe. Quand on cherche à le rendre effectif, ça veut dire qu'il n'est pas effectif réellement, n'est-ce pas ?
L'effectivité du droit à congé maternité, on va partir d'abord du congé de maternité, était une promesse du président de la République en 2017, suite à quoi moi j'ai été missionnée par le gouvernement, par Édouard Philippe à l'époque, pour remettre un rapport au gouvernement sur le congé maternité pour toutes. Quand je dis pour toutes, de quoi parle-t-on ? On parle des salariés, évidemment, des indépendantes, des professions libérales, des agricultrices, des intermittentes du spectacle, par exemple. Globalement, c'était les quatre secteurs d'activité. Mmh. Et donc l'objectif était de s'assurer que les agricultrices, les professions libérales, les intermittentes du spectacle bénéficiaient du même congé maternité que les salariés. Pourquoi ? Parce que le congé maternité a deux vocations. La première, c'est de permettre de resserrer le lien entre la mère et l'enfant et de permettre à la mère de se reposer. Et la deuxième mission du congé maternité, c'est de s'assurer aussi qu'il n'y a pas de perte économique et de dommages professionnels pour les femmes, que ça ne nuise pas à leur évolution de carrière. Donc pour les salariés, on va dire qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire, mais globalement les choses se passent plutôt bien. Notamment l'index de Muriel Pénicaud a intégré un indicateur qui est la promotion et les bonus perçus par les femmes à l'issue du congé maternité. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles sont notées, évaluées, et elles n'oublient pas de respecter la loi. C'était dans la loi, mais elles n'oublient pas de le respecter. On a probablement encore des choses à faire, moi je le pense, sur le premier trimestre de la grossesse, sur la manière dont les employeurs voient encore la maternité dans notre pays. Quand on va effectivement, par exemple, en Suède, la maternité est absolument un non-sujet. C'est tellement un non-sujet que quand on leur pose la question, ils ne comprennent pas la question. Donc, il faut probablement qu'on avance encore sur ce point.
Je suis d'accord sur le premier trimestre, qui est quand même relativement dur pour beaucoup de femmes. Non, mais c'est vrai, parce que si on a 3 mois de nausée, enfin, voilà, c'est pas des moments...
Et il y a des métiers physiques, donc il faut que je pense qu'il y ait une réflexion à avoir sur ce point. Le deuxième sujet, c'était donc de s'assurer que les femmes ne perdent pas en valeur, notamment pour celles qui sont agricultrices et professions libérales. Pour les agricultrices, on a mis en place une réforme, donc à l'issue de ce rapport, en 2019, et les choses fonctionnent bien. Les syndicats, les agricultrices elles-mêmes disent qu'aujourd'hui, elles sont satisfaites. Le congé a été allongé de la même manière, il y a des indemnités journalières, les choses se passent bien. Si ce n'est qu'elles peuvent bénéficier d'un service de remplacement et que ce service de remplacement mérite encore d'être plus structuré. Et on y travaille en ce moment avec mon collègue, je pense par exemple à Stéphane Travers. Sur les professions libérales, il y a des choses qui ont été intégrées à la loi. Ça, c'est très bien. D'autres qui étaient de l'ordre de l'expérimentation. Mais au-delà de ça, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier d'un certain nombre de droits nouveaux qui ont été ouverts grâce à la suite de mon rapport. Et donc, moi, je souhaite définitivement les intégrer dans la loi et surtout faire connaître ces droits. Et je pense notamment parce qu'on a des entrepreneurs qui nous écoutent, à 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que les IJ perçus pendant un congé maternité, on rejoint le sujet des mamans solo, ne sont pas là pour... payer des cotisations, les indemnités journalières, sont pas là pour payer les cotisations sociales qui continuent de tomber pendant le congé maternité du libéral. Et donc, il y a, aujourd'hui, c'est dans la loi, un report automatique des IJ à l'issue, durant le congé maternité. Donc, ça doit être automatique.
C'est très peu su.
C'est très peu appliqué encore. Et donc, l'idée étant, à travers cette proposition de loi, de le rendre plus performant et le plus effectif. Oui. Et la deuxième chose...
Pour que ce ne soit pas le parcours du combattant non
plus. Voilà. Oui. Et la deuxième chose qui est un peu moins connue, c'est qu'un congé maternité après une naissance, c'est 10 semaines. Et moi, ce que j'ai préconisé, c'est que les mamans s'arrêtent vraiment 6 semaines. On joue le jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai été profession libérale en ayant un bébé. Je pense que 6 semaines, on peut... faire patienter des clients, on peut attendre, voilà, ça, c'est jouable. Et les 4 dernières semaines, on permet aux professions aux indépendantes de pouvoir travailler, si elles le souhaitent, 1 à 2 jours par semaine, et elles récupèrent ces 2 jours à l'issue du congé maternité. Donc ça leur permet de ne pas laisser tomber totalement leur activité si elles le souhaitent. Une avocate peut aller plaider un dossier, une architecte peut rendre un dossier. Si vous vendez des bijoux, vous pouvez faire vos colis. Et vous n'êtes pas sanctionné financièrement. Et vous avez le même congé maternité puisque vous pouvez récupérer ces jours à l'issue du congé maternité. Et là, c'est pareil, c'est pas suffisamment su, c'est pas suffisamment connu.
C'est vrai.
Donc, on a comme ça ce qu'on appelle des trous dans la raquette qu'il faut encore rendre plus performant. Mais l'autre sujet, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fonction des configurations familiales, on parlait des configurations professionnelles, mais en fonction des configurations familiales, l'enfant ne bénéficiait pas forcément du même temps familial selon qu'il vivait dans une famille biparentale ou monoparentale. Or, du point de vue de l'enfant, d'abord, c'est injuste qu'on soit dans une famille avec un seul parent ou une famille avec 2 parents, l'enfant doit pouvoir bénéficier de ce même temps.
Bien sûr.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que le congé paternité ou le congé coparent a aussi des vertus, notamment dans la prévention du postpartum. Que c'est un moment aussi qui n'est pas toujours simple de rentrer chez soi à la maison. Et quand bien même on a décidé de faire un bébé toute seule, par exemple, pour reprendre la chanson de Goldman, pour autant, on a aussi... peut-être envie ou besoin d'être accompagné dans ces premiers moments de retour à la maison. Et donc, moi, je propose 2 choses. Notamment que la première, c'est qu'une femme peut choisir dans son entourage une personne qu'elle définit et qui peut bénéficier du congé paternité pour elle. Et à défaut, elle peut bénéficier du congé maternité et du congé paternité. Voilà 2 options qui lui sont proposées. Il se trouve que entre ma réflexion qui date depuis 1 an et aujourd'hui, la justice espagnole a rendu un arrêt qui ouvre aux femmes, aux mamans solo, la possibilité de cumuler congé maternité et congé paternité. Donc l'État a fait appel en Espagne. Donc là, il n'y a pas encore eu un rendu définitif de cette... Mm-hmm. Mais on voit qu'il y a une réflexion
autour de ça,
globale autour de ce sujet. Mm. Parce que les familles, aujourd'hui en 2023, ne sont pas les mêmes que dans les années 50 ou dans les années 70. Et à partir du moment où l'État, le droit, est là pour s'adapter à toutes les familles et à accompagner toutes les familles.
Je voudrais aborder un sujet. Alors, je pourrais en parler des heures du congé maternité, mais c'est vrai qu'il y a... Merci d'avoir souligné ce qui est possible de faire aujourd'hui et de manière complètement pratique. Parce que, encore une fois, je pense que beaucoup de gens l'ignorent. Là, je voudrais aborder un tout autre sujet qui sort un petit peu de votre scope, on va dire, parlementaire. Mais vous êtes aussi membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, sauf erreur de ma part. Il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, mais qui tient forcément à cœur à tout le monde, hein, c'est le harcèlement scolaire. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très touchy en ce moment, qui est très électrique et qui, je veux pas vous obliger à parler du sujet si vous voulez, si vous souhaitez pas en parler, mais j'aimerais bien vous entendre déjà en tant que femme, pas forcément en tant que membre de cette commission, mais plutôt comment vous expliquez ce phénomène qui est quand même en accroissement, hein, parce qu'on peut pas le nier, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas les chiffres exacts, j'en ai pas, et puis je fais ça vraiment de manière complètement instinctive, mais je pense qu'il y a forcément eu une accélération du harcèlement scolaire ou harcèlement lié à l'essor des réseaux sociaux. Et puis, de toute façon, on le voit tous les jours. Donc, statistiquement, ça a forcément augmenté. Comment vous expliquez ce phénomène, d'une part? Et d'autre part, est-ce que, selon vous, on peut faire des choses pour éradiquer ce fléau? Ou en tout cas, peut-être pas l'éradiquer, mais en tout cas, à quoi on peut réfléchir? Que ce soit au niveau politique ou pas, hein, c'est pas forcément là. C'est pour ça que je vous dis, je parle plus à la femme qu'à la députée. Mais dès que je rencontre, voilà, des gens qui monopolisent beaucoup de temps de réflexion, etc., qui sont entourés, j'essaye quand même de parler de ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet de société. Et puis malheureusement, on en parle puis on n'en parle plus. Donc moi, j'ai envie d'en parler régulièrement.
Eh bien, ça tombe bien parce que moi aussi, j'en parle et je pense qu'il faut en parler et ne pas en parler juste ponctuellement et occasionnellement.
Ouais. C'était un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'on en parle parce qu'il y a eu un accident ou il y a eu un crime et qu'après, bon, bah, on passe à autre chose.
Donc, ce que je dis là, c'est ma perception et mon point de vue à moi de ce que je vois, probablement aussi quand même en tant que députés, dans le sens où les députés sont aussi des élus de terrain, donc on va dans des écoles et on rencontre des enfants très différents. Moi, j'étais dans des écoles très différentes, et de la maternelle au lycée. Et il y a aussi des choses que l'on voit néanmoins aussi dans notre société, et le harcèlement scolaire va aussi de pair avec la manière dont, entre adultes aussi, peut aussi se considérer et se parler, et le fait que, par exemple, l'art de la nuance devient de plus en plus un art recherché, j'ai envie de dire. Ce que je crois, d'abord, c'est, et ça je le crois, ça rejoint les enjeux d'émancipation des femmes, et ça rejoint toutes les problématiques. On est dans une société qui cultive la différence. On le voit, aujourd'hui on a des possibilités d'exprimer sa différence qui n'existait pas il y a 40 ou 50 ans.
C'est vrai.
Et en même temps, on rejette... on n'admet pas la singularité. En tout cas, la singularité, quand je dis la singularité, c'est le fait que chacun d'entre nous sommes par définition des êtres singuliers. Nous ne sommes pas deux à nous ressembler. Et ça, en soi, la singularité est une richesse pour une communauté, pour une école, pour une entité quelle qu'elle soit. Or, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est des gens qui soient vraiment formé et codifié selon un certain nombre d'attendus, et probablement que on le transmet aux enfants. Et je ne sais pas si c'est lié au marketing, je ne suis pas une spécialiste du marketing, mais c'est vrai que quand on regarde notamment la manière dont les filles, ça rejoint le harcèlement scolaire, sont vues dans leur singularité de filles dans les écoles. Moi, je vais régulièrement dans des écoles. Je prends par exemple le cas d'une fille, une jeune fille qui est rentrée en sixième et qui m'a expliqué qu'elle a vécu la misère pendant 2 mois parce que son cartable était violé. et que c'était un problème que ce cartable soit violet, parce qu'il aurait fallu qu'il soit noir, qu'il soit gris, qu'il soit rose, mais en tout cas le fait qu'il soit violet, ça avait été un drame, et ça signifiait, ça voulait dire quelque chose. Et probablement, enfin moi à mon époque, il n'y avait pas de cartable de fille rose, il n'y avait pas de cartable de garçon bleu, il y avait des cartables marron, des tans jaunes, verts et rouges. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les niches marketing étaient beaucoup moins marquées. On le voit en littérature. Moi, j'ai des libraires aujourd'hui qui me disent, par exemple, que les parents viennent chercher un livre où les protagonistes sont du genre de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils n'achèteront un livre pour une petite fille, de petite fille. Et je vous mets au défi, j'ai un petit garçon de 3 ans. L'autre jour, je regardais la bibliothèque des livres, ceux de son aîné, qui lui a 14 ans. Et en fait, j'ai regardé combien, parmi tous les livres d'enfants, il y en a vraiment beaucoup, combien il y en avait où c'était une petite fille qui était la protagoniste. Et vous prenez les grands titres de la littérature enfantine aujourd'hui pour les tout-petits, il n'y en a quasiment pas.
C'est vrai.
J'en ai acheté un la semaine dernière qui s'appelle « La Reine des Bisous ». Donc, la couverture est rose. Tout est fait pour que ce soit une petite fille qui achète ce livre. Et ce que je trouve dommage, c'est que moi, mon petit garçon, il adore ce livre de La Reine des Bisous. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait aujourd'hui ce marketing genré qui fait qu'en fait, on exige inconsciemment de la part des individus. Donc là, en l'occurrence, on parle de filles-garçons. Mais ça vaut évidemment pour le handicap, dont on parle beaucoup moins. Ça vaut pour les troubles associés que l'on peut avoir. Ça vaut pour des différences sociales, différences religieuses, évidemment. Enfin, tout est fait que pour que la plus petite singularité soit prétexte à harcèlement. Comme si on guettait la différence pour que ce soit un levier de harcèlement. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on parle beaucoup de l'uniforme scolaire, par exemple. Moi, personnellement, je suis contre l'uniforme scolaire.
Ah oui.
J'en ai parlé avec beaucoup d'associations qui luttent contre le harcèlement scolaire et qui sont d'accord avec moi. Je crois qu'au contraire, plutôt que de masquer les différences, il faut apprendre aux enfants à vivre de leurs différences. Parce que quand ils vont rentrer dans la vie réelle, ou quand ils vont sortir du collège et qu'ils vont aller à leur club de foot ou leur club de danse, ils ne seront pas en uniforme. Que par ailleurs, l'uniforme a une vertu, c'est de faire ressortir encore davantage les différences physiques entre les adolescents, quand on parle notamment de l'adolescence. Donc,
la conscience du corps de l'autre, voilà, que l'autre est différent.
Moi, je crois qu'il faut plutôt apprendre aux enfants à cultiver et à apprécier la singularité de chacun. Donc ça, c'est le premier point.
Vous me posez un cas de conscience, parce que je m'apprête à inscrire mon fils où il y a un uniforme. Il y a une blouse.
Après, moi, j'ai absolument rien contre l'uniforme
c'est vrai ce que vous dites.
Notamment chez les tout-petits. Mais à l'adolescence, je pense que c'est un vrai problème, l'uniforme à l'adolescence.
Ah oui, bien sûr, parce que alors là, pour le coup, j'envoie à mon podcast avec Alix sur la psychologie de l'adolescent. Et c'est une période de vie où c'est important d'avoir ces crises vestimentaires, ces crises de cheveux bleus, où le style est identitaire, c'est-à-dire que le choix d'un style est identitaire et les enfants de cet âge-là, enfin des adolescents, doivent passer par ce stade-là ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les brimer ou les retenir à cette période-là.
Et puis ensuite, je crois qu'il faut mesurer l'effet dévastateur qu'a toute forme de rejet sur un individu, sans même en arriver au harcèlement scolaire, donc cette
rejet.
Répétition continue qu'est le harcèlement scolaire, le fait même de ressentir le rejet. Sur des aides qui sont en formation, l'effet dévastateur que cela peut avoir. Et se dire aussi qu'évidemment, on doit accompagner les enfants qui sont harcelés tout autant que les enfants qui sont harceleurs.
Bien sûr. Je suis d'accord avec vous.
Il faut en parler, il ne faut pas en parler occasionnellement. Et quant aux réseaux sociaux, c'est effectivement la même chose. Je pense qu'il faut qu'on régule davantage. Je pense qu'il faut qu'il y ait également peut-être une surveillance plus appréciée, en tout cas, de l'usage des réseaux sociaux et de l'accès aux réseaux sociaux sur les enfants. Mais ce que je crois, c'est que tout ça, c'est si c'est pas les réseaux sociaux, le harcèlement, il trouvera d'autres formes d'expression. Et on le voit, encore une fois, également dans les entreprises. On le voit dans les organisations telles qu'elles sont, entre adultes, notre singularité. Lorsqu'on parle, par exemple, c'est très intéressant de parler avec des femmes qui sont autistes, notamment pour certaines d'entre elles, Asperger. Donc, vous ne devineriez pas qu'elles sont autistes. Et toutes les difficultés qu'elles ont également dans leur progression professionnelle et la manière dont elles sont considérées dans la société sont tout simplement qu'elles ne correspondent pas au code que l'on attend d'un point de vue social. Et c'est très, très parfois perturbant d'être confronté à quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes que soi-même. Mais autant on les apprécie et on les cultive lorsque ce sont des personnes qui ont une culture, par exemple, différente. Mmh. Et là, on trouve ça intéressant. Autant lorsque ce sont des codes sociaux qui ne sont pas les mêmes, ça prend une proportion qui n'est pas admissible et qui aujourd'hui a des conséquences franchement dramatiques. Je ne suis pas spécialiste du harcèlement scolaire, mais pour que des enfants en arrivent à mettre fin à leur jour, je crois qu'il faut qu'on mesure la douleur psychique que ces enfants ont pu ressentir. Donc, en tout cas, moi, c'est un sujet sur lequel je ne fais pas une rentrée scolaire où je vais tout le temps dans les établissements sans parler aux enfants, quels qu'ils soient, jusqu'au lycée, de l'importance de cultiver leur singularité et d'apprécier la différence chez l'autre et de la cultiver.
Je suis bien d'accord avec vous. Un peu plus perso maintenant, on arrive à la fin de notre échange, mais je pose toujours les mêmes questions à mes invités. Est-ce que vous avez un coup de cœur récent et un coup de gueule éventuellement ? Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Coup de cœur, ça peut être un film, ça peut être un livre, je sais pas, une pièce de théâtre, une série, une musique, un voyage, peu importe. Et puis coup de gueule, bah ça porte bien son nom, mais après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Il y a des gens qui n'ont jamais de coup de gueule. J'admire.
Alors, un coup de cœur, il se trouve que je suis plongée en ce moment dans Déborah Lévy.
Ah, ouais, on en a parlé.
Et c'est formidable. C'est formidable. Il y a des passages, particulièrement par exemple sur la maternité et sur les différences de code dans les femmes et leur maternité et le regard des autres femmes dans leur maternité que je trouve intéressant. Et je la trouve formidable, émancipatrice, libre. Et j'adore son écriture. Mmh. Donc là, vraiment, je plaide pour Déborah Lévy. Et un coup de gueule, je trouve qu'en ce moment, on s'habitue à des phénomènes de racisme et d'antisémitisme. Et pas plus tard qu'hier, je ne la citerai pas, mais je suis passée devant une devanture, comme dit ma grand-mère, d'une publicité pour des vêtements pour enfants. Et je ne suis pas formée au biais raciste, mais manifestement la publicité est raciste. Et c'est...
Ah bon, c'était quoi ?
C'est subliminal, mais je pense que chacun sera peut-être libre d'apprécier comme il le souhaite cette publicité. Okay. Mais de manière générale, je trouve que l'on s'habitue trop à ça. Il y a des actes d'antisémitisme qui sont subjugants, d'horreur. Et de la même manière, quand je vois des jeunes qui envoient 200 à 250 CV pour un job d'été, et probablement que le fait qu'ils ont une origine ethnique, comme on dit, différente ou minoritaire, comme on dit aussi, est probablement l'une des raisons du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver ce job d'été, ça me révolte. Et je n'arrive pas à me résoudre à ça. Et non seulement je ne m'y résous pas, mais j'ai l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens. Donc voilà, coup de gueule, réveillons-nous.
Je suis bien d'accord, il y a une forme d'habitude. Une dernière petite question, Marie-Pierre. Vu que vous êtes une maman, est-ce que vous avez un conseil de maman à nous donner ? Parce que vous avez quand même deux tranches d'âge à la maison, donc il y a un tout petit, enfin un tout petit, un petit et un plus grand. Vous n'êtes pas obligée d'en avoir, mais j'ai cette question un peu indiscrète en tant que maman, que je pose pas forcément régulièrement, mais que je pose de temps en temps.
C'est tellement dur d'être une maman.
Ben voilà,
donc
ça peut suffire.
Je me nourris des autres. Mais s'il y avait un conseil à donner, c'est de lire des livres aux enfants.
Ouais, c'est
et
vrai.
De lire des livres aux enfants, même très tard. Moi, j'ai lu des livres à mon fils aîné jusqu'à 11, 12 ans. Je lui en lis parfois même encore. Et je lis des livres à au tout petit autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite à la
moi
lecture.
Aussi. C'est vrai, je suis bien d'accord. Marie-Pierre, un grand merci à vous.
Merci à vous.
Une excellente continuation et
merci.
À bientôt.
Bravo à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.